Merci Seigneur. Nous continuons ce soir, nous sommes rendus à la semaine 8. Et là, on va parler quelle est l'œuvre du Saint-Esprit. La semaine dernière, on a vu la personne du Saint-Esprit. Ce soir, on voit l'œuvre du Saint-Esprit. Premièrement, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église et dans le croyant. Dans le Nouveau Testament, l'Église, comme corps de Christ, doit être gouvernée par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'elle est membre du corps de Christ. Ça va de soi, les chrétiens nés de nouveau doivent être, eux aussi, gouvernés par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils doivent être, premièrement, nés de l'Esprit. Dans Jean 3, verset 5, Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, il doit naître de l'Esprit. Et il doit être rempli de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Il doit être également conduit par l'Esprit. Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il doit être baptisé de l'Esprit. Acte 10, verset 44 à 46, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le chrétien né de nouveau doit également être marqué du sceau de l'Esprit. On en a parlé la semaine dernière. Dans Éphésiens 1, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés, c'est là le sceau, scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et le chrétien né de nouveau doit être revêtu de la puissance de l'Esprit. Dans Actes 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et dernièrement, il doit être oint du Saint-Esprit. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. On parle ici de l'onction du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup parlé du Saint-Esprit dans l'Évangile de Jean. Regardons ce qu'il a dit au sujet du Saint-Esprit. Premièrement, il a dit que le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous et en nous. Dans Jean 14, versets 16 et 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. » Et il sera en vous. Jésus a également dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Dans Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus a dit que le Saint-Esprit rend témoignage de lui, de Jésus-Christ. Dans Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jésus a également dit que le Saint-Esprit convaincra le monde. Ce n'est pas nous qui convainc les gens, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, on parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et nous annoncera les choses à venir. C'est une autre chose que Jésus a dit sur le Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Jésus a également dit que le Saint-Esprit le glorifierait, qui glorifiait Jésus-Christ en nous annonçant ce qui vient de lui. Dans Jean 16, verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Maintenant, comment recevoir le Saint-Esprit? Là, on vient de voir tout ce que le chrétien né de nouveau reçoit par le Saint-Esprit, tout ce que le Saint-Esprit fait dans sa vie, dans son être. Et maintenant, posons-nous la question, comment recevoir le Saint-Esprit? Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, je parle de la personne du Saint-Esprit. Jean 7, versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, selon ces versets, Jean 7, 38 et 39, c'est en croyant en Jésus-Christ et en son œuvre que nous recevons le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est au moment du salut. Au moment du salut, tous les croyants reçoivent le Saint-Esprit, car c'est par lui que nous naissons de nouveau. Nous naissons de l'Esprit. Il ne s'agit pas ici du baptême du Saint-Esprit. On va le voir plus loin. Il s'agit de la présence du Saint-Esprit dans le croyant né de nouveau, né de l'Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce qu'il nous a donné par sa grâce, première chose, c'est le salut. C'est pourquoi nous sommes encouragés à marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Marcher selon la chair signifie marcher selon notre ancienne manière de vivre, mais maintenant nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors nous devons marcher une vie nouvelle, nous sommes nés de l'Esprit, une vie de l'Esprit. Nous devons donc marcher selon l'Esprit. Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous sommes exhortés à ne pas éteindre le Saint-Esprit qui vit en nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 19, « N'éteignez pas l'Esprit. » Cela signifie de ne pas l'empêcher d'accomplir son travail en nous. Nous l'empêchons comment? Lorsque nous lui désobéissons. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous avertir quand on fait un faux pas, quand on s'éloigne de la vérité, quand on s'éloigne du chemin. Il y a toujours une petite alarme en dedans de nous, une lumière rouge qui clignote, qui nous avertit. Alors, lorsque nous lui obéissons, à ce moment-là, nous marchons selon l'Esprit. Mais lorsque nous désobéissons, nous rentrons bien souvent dans les œuvres de la chair. Nous sommes appelés également à produire le fruit de l'Esprit. Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Quand on regarde tout ça à travers les évangiles, on s'aperçoit que c'est aussi le caractère de Christ. Alors, c'est de devenir de plus en plus semblable à Christ, et cela se fait par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Maintenant, nous arrivons au baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Premièrement, d'où vient cette expression? Est-ce que c'est juste inventé par les mouvements évangéliques et pentecôtistes? Non, c'est dans la Bible. L'expression « baptême du Saint-Esprit » vient de Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il parlait de Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » En grec, qui est la langue originale du Nouveau Testament, parce que ce texte est dans le Nouveau Testament, le mot « baptiser » signifie « plonger, immerger, submerger ». Donc, le Seigneur désire non seulement que le Saint-Esprit réside en nous lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous recevons le salut, mais il désire en plus que le Saint-Esprit imprègne chaque parcelle de notre être, qu'on soit complètement submergé par le Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand le baptême du Saint-Esprit a été promis, quand est-ce que cette promesse a été donnée par Jésus? Bon, il faut faire la distinction, comme je dis depuis tantôt, entre la présence du Saint-Esprit qui vient habiter le croyant au moment du salut et le baptême du Saint-Esprit. Jésus, après sa résurrection, a donné le Saint-Esprit à ses disciples. Dans Jean 20, verset 22, « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » C'est ainsi que les disciples ont été régénérés par le Saint-Esprit. Autrement dit, ils sont nés de nouveau. Sont nés de l'Esprit. Plus tard, juste avant son ascension, Jésus fait la promesse d'une autre expérience avec le Saint-Esprit. Il s'adresse toujours à ses disciples présents dans Actes 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans Actes 1, verset 8, il parle toujours à ses disciples, juste avant son ascension. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Nous voyons donc que le baptême du Saint-Esprit est à distinguer de la présence du Saint-Esprit qui vient habiter dans le croyant au moment du salut. C'est une autre expérience. Puis il y a plusieurs passages qui nous le démontrent, dont entre autres dans Actes 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu qu'il y ait un Saint-Esprit, mais ils étaient nés de nouveau. » Et là, Paul leur parle du baptême du Saint-Esprit. Et il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Ils n'avaient même pas eu le baptême en Jésus. Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur impose après leur baptême, ce sont des croyants, ce sont des disciples, après leur baptême de Jésus, Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc on voit dans ce passage que ces chrétiens étaient nés de nouveau, mais ils n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit, ils n'avaient pas fait cette deuxième expérience. Ils reçurent le baptême du Saint-Esprit ici par l'imposition des mains. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. Il y a d'autres passages où le baptême du Saint-Esprit est reçu sans imposition des mains. Nous voyons également dans ce passage que le baptême du Saint-Esprit peut, ici il suit le baptême d'eau, mais dans d'autres passages, on voit qu'il peut précéder le baptême d'eau également. C'est des expériences différentes. Maintenant, quand la promesse du baptême du Saint-Esprit a-t-elle été accomplie? Dans Actes 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il est à noter au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement pour une élite religieuse, c'est pour tous les croyants nés de nouveau. Plus loin, nous lisons dans Actes 2, versets 38 et 39, « Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et, après être baptisé, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Quel fut le signe démontrant qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit? Bien, ils se mirent à parler en d'autres langues. Au jour de la Pentecôte, ce fut des langues connues, mais étrangères à ceux qui les parlaient. Ceux qui les parlaient ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Mais ce jour-là, il y avait plein de Juifs venus de différentes contrées, donc avec différents langages, et ils comprenaient eux. Un était de la Syrie, comprenait le Syrien, l'autre comprenait chacun les dialectes qui étaient donnés par l'Esprit. Mais celui qui le disait, qui le prononçait, lui ne comprenait pas. Mais lorsque Paul parle des langues, il mentionne que celles-ci peuvent être des langues des hommes ou des anges, donc des langues connues ou des langues inconnues. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Donc, il peut s'agir d'un langage qui est connu, un langage humain, ou un langage qui est inconnu, que personne ne peut comprendre, qui vient d'un langage céleste, qui vient des anges. Le point commun, que ce soit l'un ou l'autre, c'est que la personne qui parle ne comprend pas ce qu'elle dit. Son intelligence n'est pas mise à profit, car c'est le Saint-Esprit qui s'exprime à travers elle. Vous savez, quand on parle, c'est qu'on a une pensée qui vient dans notre intelligence et c'est celle-ci qui est exprimée en parole. Mais quand on parle en langue, notre intelligence n'est pas mise à profit. Ce n'est pas notre intelligence, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Dans 1 Corinthiens 14, 14, il est écrit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc, elle ne produit rien. L'intelligence est stérile. Ce n'est pas elle qui produit les pensées qui vont s'exprimer. C'est le Saint-Esprit, par notre esprit, qui va s'exprimer à travers nous. Se parler en langue, identifié comme le signe initial, prouvant que la personne a été baptisée du Saint-Esprit, est le sujet de controverses parmi les églises. Certaines églises disent que le parler en langue n'est pas indispensable et qu'il a été manifesté à la Pentecôte seulement. Mais lisons ce qui s'est passé après la Pentecôte, chez Corneille. Vous savez, le Romain Corneille est chez sa famille. Dans Actes 10, versets 44 et 46, ça c'est après la Pentecôte. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ça, c'est après la Pentecôte. Comment Pierre et les Juifs qui l'accompagnaient ont su que les gens de la maison de Corneille avaient été baptisés du Saint-Esprit? Bien, c'est en les entendant parler en langue. C'est ce qui leur a confirmé qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. La même expérience s'est produite quand Paul a prié pour que les Corinthiens reçoivent le Saint-Esprit. Dans Actes 19, verset 6, et ça aussi c'est après la Pentecôte. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ces versets démontrent, premièrement, que le signe initial est le parler en langue. C'est ce qui démontre que la personne est baptisée du Saint-Esprit. Et ça nous démontre également que ce n'était pas juste pour l'expérience de la Pentecôte, que ça s'est poursuivi par la suite au sein de l'Église primitive et encore aujourd'hui de nos jours pour tous ceux qui croient à la parole, à ce que la parole enseigne, parce que ce sont tous des versets qui viennent de la parole. Ce n'est pas des inventions des hommes. Maintenant, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, comme on a vu, c'est pour le chrétien né de nouveau. Puis, il n'est pas nécessaire d'attendre avant de le demander. Ce n'est pas nécessaire de dire, « Ben moi, je suis né de nouveau, mais je suis nouvelle, je ne connais pas beaucoup la parole, je vais attendre d'en connaître plus. » Non, ce n'est pas nécessaire. Au contraire, le baptême du Saint-Esprit va t'aider à apprendre et à comprendre la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire des œuvres non plus pour le recevoir. Pour le recevoir, il y a une seule chose à faire. Le demander exactement. C'est la seule chose, il faut le demander. Jésus a dit dans Luc 11, versets 11 à 13, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? » Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui? À ceux qui le lui demandent. Tout simplement. Mais il faut le demander avec foi. Dans Marc 11, verset 24, c'est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Il faut y croire pour le demander. On peut le recevoir, comme on a vu tantôt, par l'imposition des mains ou pas. Ce n'est pas nécessaire. Maintenant, quels sont les bienfaits du baptême du Saint-Esprit? Une personne née de nouveau peut se demander, ben, « À quoi ça me sert d'avoir cette... » deuxième expérience avec le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas suffisant d'avoir juste la personne du Saint-Esprit qui vit en moi? Eh bien, la parole de Dieu enseigne que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Dans 1 Corinthiens 14, verset 4, Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. S'édifier signifie se construire, se bâtir intérieurement. C'est donc très, très important. Plus on parle en langue, plus notre esprit à l'intérieur se bâtit intérieurement, plus il se construit une base solide sur le roc qui est Jésus. Le baptême du Saint-Esprit est aussi nécessaire pour devenir un témoin victorieux. Rappelons-nous que lorsqu'il a donné la promesse, c'est une puissance pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour témoigner. Donc, c'est pour ça que Jésus a recommandé à ses disciples même d'attendre de recevoir le Saint-Esprit avant d'aller prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile partout dans le monde. Ça, c'est dans Actes 1, versets 4 à 5 et le verset 8. Donc, c'est important d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Voyons maintenant les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste à travers une multitude de dons spirituels qui sont donnés aux croyants, ça fait redondant, des dons donnés. Ces manifestations de l'Esprit sont accordées en vue de l'édification et de la sanctification de l'Église. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, nous parle des dons de l'Esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous remarquez, à chacun. Il n'y a pas d'exception, il faut juste être disposé. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, ou si vous préférez le don des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est Saint-Esprit qui décide. Ces dons spirituels, il faut les distinguer des dons et des ministères mentionnés dans Romains 12, versets 6 à 8. Je vais vous lire de Romains 12, versets 6 à 8. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. » Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dans ce passage de Romains, il s'agit de dons à travers lesquels certains croyants reçoivent la puissance et la capacité d'exercer un ministère plus permanent dans l'Église. Mais la liste de dons mentionnée dans 1 Corinthiens 12, cette liste n'est pas nécessairement exhaustive, d'autres manifestations peuvent se rajouter, mais ces dons-là peuvent se manifester de diverses façons et ils sont donnés à tous les croyants. Les manifestations de l'Esprit dans 1 Corinthiens 12 sont données, comme on l'a vu, selon la volonté de l'Esprit, lorsque le besoin s'en fait sentir, dans 1 Corinthiens 12, verset 11. Je vous donne juste la référence, je ne lirai pas le verset. Un croyant peut régulièrement exercer certains dons et exercer plus qu'un don. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Le croyant doit désirer les dons. Si vous ne manifestez pas de dons, ben demandez-les. Il faut vous aspirer aux dons. Puis ne pas vous limiter à un seul don. C'est dans 1 Corinthiens 12, verset 31. Puis il ne faut pas confondre les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'une personne manifeste un don qu'elle est plus spirituelle ou plus sanctifiée qu'un autre. La référence est dans Galates 5, versets 22 et 23. Le croyant ne doit pas accepter toutes les manifestations spirituelles, mais doit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que n'oublions pas que notre adversaire, Satan, peut imiter les dons spirituels. C'est dans 1 Jean 4, verset 1. C'est pourquoi on a tellement besoin du discernement. Voyons maintenant brièvement chacun des dons énumérés dans 1 Corinthiens 12, les dons d'esprit. On ne verra pas les dons au ministère, mais les dons de l'esprit. La parole de sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est une parole sage, parole de sagesse, ça le dit, une parole sage, qui est prononcée par le Saint-Esprit à travers le croyant. Elle applique la révélation de la parole de Dieu pour une situation spécifique ou un problème. Vous avez un exemple dans Actes 6, verset 10. Il ne faut pas confondre la sagesse de Dieu que nous avons dans notre vie quotidienne, parce que la parole de sagesse s'obtient par la prière accompagnée de l'étude et de la méditation de la parole de Dieu. Puis c'est une parole qui est donnée par le Saint-Esprit à un moment précis pour une personne, une situation précise. Maintenant, la parole de connaissance, c'est une parole inspirée par l'Esprit qui révèle une connaissance à propos des gens, des circonstances ou des vérités bibliques. La référence est dans Actes 5, les versets 1 à 10. Elle est souvent étroitement liée à la prophétie. La foi, il s'agit d'une foi particulière, une foi qui est surnaturelle et accordée par l'Esprit, une foi qui pousse le chrétien à croire que Dieu est capable d'accomplir l'extraordinaire et le miraculeux. C'est dans 1 Corinthiens 13, verset 2. Le don des guérisons. Ces dons sont accordés à l'Église pour restaurer la santé physique par des moyens surnaturels. Dans Actes 3, versets 6 à 8. Puis le pluriel des guérisons, quand on dit le don des guérisons, il n'y a pas plusieurs dons, il y a juste un don. C'est juste, ça indique simplement que c'est la guérison de diverses maladies. Peu importe la maladie, peu importe le nom que peut porter cette maladie, peu importe si c'est un nom terrifiant comme le cancer, peu importe, c'est un don. On a la foi, le don des guérisons, c'est un don, c'est-à-dire le don des guérisons qui fait que le Seigneur agit, l'Esprit donne à la personne le don, la personne prie et la personne est guérie surnaturellement. C'est pas qu'elle est guérie puis qu'après ses médicaments, dans 6 mois, elle va mieux. Elle est guérie surnaturellement, donc instantanément. Le don d'opérer des miracles. Ces œuvres sont des manifestations de la puissance surnaturelle qui bouleverse le cours normal de la nature. Un peu comme quand le Seigneur multiplie les pains. Ça, c'est vraiment un miracle. On a un exemple dans Jean 6, verset 2. La prophétie. Nous devons faire la distinction de la prophétie en tant que manifestation temporaire de l'Esprit, dans 1 Corinthiens 12, 10, et la prophétie comme ministère don de l'Église en Éphésiens 4, verset 11. En tant que ministère don, la prophétie n'est donnée qu'à certains croyants qui assument la fonction de prophète au sein de l'Église. Mais en tant que manifestation spirituelle, la prophétie est accessible à tous les chrétiens remplis de l'Esprit. On a un exemple dans Actes 2, verset 17 à 18. Tous les chrétiens nés de nouveau, remplis d'Esprit, baptisés du Saint-Esprit, peuvent recevoir une prophétie à donner à l'Église ou à une personne. Le discernement des esprits. Le Saint-Esprit donne aux croyants la capacité de discerner avec précision les prophéties et de les juger. Comme je disais tantôt, Satan peut imiter les dons. Alors ce don-là, discernement des esprits, est très, très important pour s'assurer que ce qui se passe devant nous est vraiment de Dieu ou pas. On peut distinguer si c'est une manifestation de l'esprit ou non, mais ce don est extrêmement important également dans nos temps, les temps de la fin que nous vivons, à cause des faux prophètes et des faux docteurs, pour distinguer la vérité du mensonge. Parce que vous savez que nous sommes dans la fin des temps, il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent. Dans Matthieu 24, versets 4 à 5, et une autre référence, 1 Timothée 4, verset 1. La diversité des langues ou don des langues. Les langues peuvent provenir, comme on a vu, d'un langage connu ou non. 1 Corinthiens 13, verset 1. Un tel langage n'a pas été appris et est incompréhensible autant pour celui qui le prononce que pour celui qui l'entend. Les références, 1 Corinthiens 14, verset 14 et le verset 16. Dans l'assemblée, les langues doivent être accompagnées par une interprétation donnée par l'Esprit qui communique le message à l'Église. Elle communique le sens, le contenu et le sens de ce qui a été dit. Sinon, c'est totalement inutile. Et nous avons la référence à 1 Corinthiens 14, versets 27 et 28. Celui qui parle en langue dans l'assemblée ne doit jamais être en extase ni apparaître comme ayant perdu le contrôle de lui-même. Comme la parole le dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors, on n'a pas, c'est pas nécessaire d'être avoir perdu le contrôle, le Saint-Esprit ne joue pas comme ça. Ce n'est pas une possession démoniaque, là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'interprétation des langues. Le Saint-Esprit donne la capacité à un croyant de comprendre et de communiquer le sens d'un message qui est donné en langue. Ça, le don peut être donné soit à celui qui a donné le message en langue ou à une autre personne. Une personne donne le message en langue et c'est une autre qui va l'interpréter, qui reçoit l'interprétation. Et ça prend pas, c'est pas une heure entre les deux, là, ça se fait presque instantanément. La référence, 1 Corinthiens 14, verset 13. Maintenant, nous venons de voir toute l'œuvre du Saint-Esprit, nous venons de voir l'importance du baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels. Nous avons vu que le Saint-Esprit est une puissance pour nous amener à témoigner. Alors, la question qui suit, qui va dans le même ordre d'idée, c'est « Devrais-je témoigner de ma foi? » L'ordre de témoigner de l'Évangile a été donné par Jésus-Christ à tous les croyants. Le salut, ce n'est pas le produit de l'intuition, d'une expérience mystique, de la méditation, de la philosophie. Ce n'est pas comme ça qu'on a trouvé le Seigneur. C'est parce qu'il s'est révélé à nous. Quelqu'un nous a témoigné et le Seigneur s'est révélé à nous par le Saint-Esprit qui nous a convaincus. Le salut est le résultat de l'œuvre de Dieu dans le cœur de ceux à qui nous témoignons de l'Évangile. Mais si personne ne témoigne, comment pourront-ils connaître le salut en Jésus-Christ? C'est ce que dit Romains 10, versets 13 et 14. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Selon 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19, nous sommes des ministres de réconciliation. C'est un ministère que tous les croyants ont reçu. C'est écrit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Dieu nous a donné ce ministère-là. « Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leur offense et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » C'est quoi ça? C'est la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Il y a une différence entre notre témoignage personnel et partager l'Évangile. Lorsque nous donnons notre témoignage, nous expliquons ce que nous avons expérimenté. Lorsque nous partageons l'Évangile, nous expliquons le plan du salut. Notre témoignage personnel doit contenir trois aspects. Notre vie avant de connaître le Seigneur, notre rencontre avec le Seigneur et notre nouvelle vie dans le Seigneur. Mais l'objectif de donner notre témoignage, c'est d'exalter le Seigneur et son œuvre en nous. Donc, la partie avant de connaître le Seigneur, elle doit contenir seulement quelques points importants qui vont démontrer toute la transformation qui a eu lieu. On ne doit pas s'attarder cette partie-là. Il faut toujours que nous élevions le Seigneur lorsque nous témoignons. Donc, c'est important de montrer la différence et de montrer l'œuvre que le Seigneur a accomplie et comment nous l'avons rencontrée. Puis nous pouvons nous inspirer du témoignage de Paul dans Actes 26, versets 4 à 23. Je vous invite fortement à le lire et vous allez voir, selon son témoignage, que sa vie passée, il la passe assez vite. Et il parle de sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas et de la transformation qu'il y a eu après lui. Il est important de garder en tête que le Saint-Esprit est celui qui convainc le cœur des gens. On n'essaie pas de convaincre les gens, on leur partage ce que nous avons vécu. Et il faut garder en tête que le salut est produit par Dieu. Nous ne sauvons personne. C'est Dieu qui sauve, c'est Jésus-Christ sur la croix qui est le salut. Donc nous ne sommes que des outils entre ses mains pour rendre témoignage de ce qu'il a fait en nous. Que la personne reçoive ou pas notre témoignage, c'est entre lui et Dieu. Parce qu'on ne sait jamais, c'est une semence, et on ne sait jamais ce qui va se passer dans un an, dans 6 mois, dans 2 ans, même dans 10 ans. Ce n'est pas notre rôle de convaincre ni de sauver, mais c'est notre rôle de témoigner. Soyons prêts à être utilisés par le Saint-Esprit comme bon lui semblera. C'est lui qui va nous guider vers les gens, c'est lui qui va préparer le chemin. Il faut simplement être obéissant. C'est tout pour ce soir. Amen.